Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Depuis quelques semaines et le retour du printemps, les campagnes du Blaisois se réveillent chaque matin bercées par le chant des oiseaux. Pour célébrer cette faune délicatement musicale et opportunément insectivore, la Ligue de protection des oiseaux est à l'honneur de cette 22e feuille vive. La section départementale de cette association centenaire aux 45 000 membres et 5 000 bénévoles vient de lancer son nouveau projet agrotouristique « Les oiseaux de nos fermes et de nos vignobles ». Présentation du dispositif par le fondateur de la LPO du Loir-et-Cher, Didier Nabon.
Ce projet, moi je l'ai conçu avec l'objectif de retisser des liens entre les citadins et les ruraux. Je fais partie de quelques associations, j'entendais des discussions qui n'étaient pas très, très agréables pour personne. Donc je me dis ça serait bien que les gens se retrouvent un jour autour d'une thématique, l'oiseau pourquoi pas. Et donc c'est cette idée-là qui est aujourd'hui dans le vent complètement. On entend pas mal d'associations, d'élus qui disent qu'il faut se retrouver, ceci, cela. Eh bien, moi, je pense qu'on avait vu juste.
Et qu'est-ce qui sortait de ces conversations dont vous parliez au début ?
Alors, le mot paysan, on le montre du doigt, le pollueur, etc. Donc, et puis les citadins, ils ignorent tout, ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Bref, c'était vraiment pas très, très agréable, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens se connaissent pour déjà se comprendre. Et puis, cultiver un peu ses connaissances. Des connaissances sur les problèmes du monde agricole, les problèmes de la biodiversité, les exigences des citadins. Donc tout ça ensemble fait qu'on peut arriver, notamment là, l'objectif c'était de travailler avec des agriculteurs en vente directe. Donc là on a des producteurs qui accueillent à la ferme, qui vendent du vin, du fromage, des légumes, etc. Et donc qui sont déjà habitués à recevoir une clientèle chez eux. Et l'idée, c'était que les clients qui viennent chercher des produits puissent faire un parcours sans avoir le recours de l'exploitant qui n'a pas le temps de les accompagner sur le parcours. Un parcours de 30 à 45 minutes. Donc il fallait trouver une solution qui réponde à ça. Donc l'idée, c'était de commencer par faire les inventaires ornithologiques. 3 inventaires dans l'année, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, par nos ornithologues qui ont fait un beau, beau travail en tant que bénévoles, complètement, chez les 30 agriculteurs. On a donc listé ces oiseaux et puis on a mis en place des bornes tous les 100 ou 150 mètres avec des QR codes parce qu'on considère aujourd'hui qu'on doit intéresser le jeune public et les touristes qui ont tous un smartphone dans la poche, qui peuvent accéder avec leur smartphone et ses QR codes aux données d'exploitation en termes de production, en termes de pratiques culturales, en termes d'oiseaux, de botanique, etc. Voilà, et ça...
On en parlait l'autre jour, même des indications touristiques sur
oui,
les lieux à visiter.
Oui, c'est ça, voilà, voilà.
Il y a les autres fermes dont on peut retrouver l'itinéraire à partir de ça.
Tout à fait. Donc c'est un projet agro-touristique. Et c'est grâce à cette dénomination et cet objectif qu'il était accepté, validé, financé par la région et les syndicats de pays, les fonds européens. Donc c'est un projet qui est un financement assez conséquent pour un petit groupe comme nous, qui n'avons pas de salariés, qui ne sommes que des bénévoles. On a un projet de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui est permis aujourd'hui, qui permet de mettre en relation un peu les uns et les autres, en espérant à la fois améliorer la biodiversité, la préserver et valoriser les produits de terroir aussi. Ça, c'est le circuit court. On est complètement dedans. Nous, c'est un de nos objectifs en tant que membre de la LPO. On considère que le circuit court, c'est quand même quelque chose de fondamental et qui est à l'heure du jour. Hein.
30 circuits dans 30 exploitations agricoles, pour l'essentiel des éleveurs ou des viticulteurs qui écoulent tout ou partie de leur production sur place. Chaque agriculteur définit les périodes et les horaires d'ouverture de son circuit en fonction de ses disponibilités. L'élevage de porcs de la ferme de Morillard à Lancôme accueille l'un de ses parcours d'observation. Visite guidée avec Henri Borde, ornithologue bénévole à la LPO du Loir-et-Cher.
Chaque exploitation, bien évidemment, tu auras un milieu qui est différent, puisque c'est des zones géographiques différentes. Que tu vois, on est plutôt au nord de la Loire, après on peut aller en Sologne ou en pleine Beauce, ça va être complètement différent. Ce qu'il y a de commun malgré tout à toutes ces exploitations, c'est que tu vas avoir une zone, la zone bâtie, donc le hangar, les habitations. Et t'as toujours des petits arbres, des buissons qui en général sont plantés autour. Donc là on va retrouver les mêmes oiseaux. Donc globalement c'est le moineau domestique qui vit à côté de l'homme en fait. Donc voilà, nécessairement tu vas le retrouver partout. Puis d'autres petits oiseaux suivant la flore arborée que t'as autour. Donc donc là on a des oies cendrées qui ne sont pas sauvages bien évidemment. Donc d'autres petits oiseaux qu'on peut retrouver dans les parcs et jardins des villes. Donc ça va être le rouge-gorge familier, la senteur mouchée. Voilà, des petits oiseaux assez communs qu'on appelle généralistes. Donc tu vas les trouver à peu près partout. Que ce soit donc en plein parc, en centre-ville, dans les petits villages de campagne ou dans les bois. Voilà. Après, tu peux en avoir d'autres un peu plus particuliers. Là, typiquement, donc les gens ne voient pas, mais sur notre droite, on a une zone ouverte, dite de grande culture. Donc là, on a aucun arbre. Et là, on va avoir des oiseaux des grands espaces. Donc là, on va avoir l'alouette des champs, qui vraiment est inféodé à ces milieux-là. Donc ça, c'est une espèce en plus qui, au niveau national, est en forte régression. Les effectifs diminuent fortement depuis une trentaine d'années. Et voilà, on a ça, on peut avoir aussi...
Est-ce que c'est pourquoi ?
Oui, alors c'est disparition de l'habitat, ou modification, forte modification, essentiellement, et diminution de la ressource alimentaire. Donc ça, c'est essentiellement... L'agriculture intensive. Donc en fait, ça a été clairement montré, voilà, la quantité disponible d'insectes a fortement diminué. Et donc tous ces oiseaux, l'alouette et beaucoup d'autres insectivores ont besoin d'un insecte pour nourrir les jeunes. C'est vraiment la source de protéines essentielle. Et donc en fait, ils ont de plus en plus de mal à trouver d'insectes bons insectes pour nourrir les jeunes. Et le fait de la durée des cultures c'est énormément réduite. Donc le cycle de reproduction il est induit aussi. Donc globalement c'est la modification voire la suppression des habitats et la ressource alimentaire qui se fait rare pour les insectivores. Pour la ouette, tu peux avoir aussi le nickname criard. Un oiseau qui est assez... déjà le nom est pas facile à prononcer, beaucoup de gens ont du mal, donc le nickname criard. Donc ça c'est un oiseau qui est assez particulier, les locaux l'appellent aussi le courlis de terre, parce qu'il a un nom qui fait un peu comme le courlis. Le cri, voilà, c'est assez typique, on l'entend bien le soir. Et c'est pareil, il aime bien ces zones dégagées. Lui, c'est pour se sentir en sécurité en fait. Il voit le danger arriver plus facilement, parce que c'est un oiseau qui est assez gros. Et donc voilà, il va se mettre vraiment dans les zones ouvertes comme ça, dans les champs de céréales.
Il est arrivé, Henri, là ?
Oui, alors le nickname criard est normalement est un migrateur, mais depuis quelques années maintenant il est hivernant, donc on l'a toute l'année, c'est assez récent. Alors potentiellement dû au réchauffement climatique. Et puis le gros des effectifs, ils sont migrateurs, donc là ils commencent à arriver gentiment. On peut aussi avoir des busards. On va continuer à marcher. Alors essentiellement sur ce secteur ça va être le busard Saint-Martin qui est qui est relativement commun sur le secteur. Alors c'est pas le cas partout en France, mais nous on a la chance d'en avoir une assez belle population qui est suivie. Et le busard cendré, qui est beaucoup plus rare, qui est un migrateur qu'on appelle strict, c'est-à-dire que toute la population va descendre hiverner en Afrique, sud région du Sahel, sud Sahara, et reviennent au printemps. A contrario, le Saint-Martin, il peut hiverner en France. Donc on en a un petit peu toute l'année. Et voilà, donc le cendré est beaucoup plus rare. Et alors c'est un rapace qui a un régime alimentaire assez particulier. En Afrique, il a quand même la ressource alimentaire majoritaire. En fait, il est insectivore. Il va chasser tout ce qui est tous les gros orthoptères, donc criquets, sauterelles. Et ça, c'est quand même une des particularités. Alors, il complète avec des petits campagnols. Alors ici, c'est essentiellement le campagnol des champs, hein, dans les grandes cultures. Voilà.
Et donc ces oiseaux-là, dans quelle mesure ils se sont impactés, soit de manière bénéfique, soit de manière négative, par l'activité agricole?
Suivant l'espèce, ça va être des activités différentes, même si globalement on en revient toujours à ce que je te disais au début, modification ou perturbation de l'habitat, c'est un peu la cause première. Mais voilà, concrètement, sur le dicknème ou le busard, l'impact le plus fort sur l'activité humaine, ça va être la destruction des nids. C'est-à-dire que c'est des espèces qui nichent au sol, ils nichent sur la terre, donc ils font un petit nid grossièrement au sol. Et donc les activités humaines, l'agriculteur va récolter sa récolte, c'est son travail de l'année, voilà. Il a tout simplement. Et c'est vrai que ça peut arriver, il y a un nid, voilà, à ce moment-là, dans la parcelle. Il le voit pas, parce que c'est pas facile à trouver. Et ça passe dans la moissonneuse, et puis les jeunes sont généralement pas volants. Et donc la niche est détruite. Ce qu'il faut bien dire, c'est que si on a ces oiseaux, c'est grâce aux agriculteurs. Pas l'oublier, parce que s'ils arrêtent de cultiver, ça va partir en friche et à terme en forêt. Donc c'est vraiment, s'ils arrêtent de semer du blé ou voilà de cultiver des céréales, du colza, voilà, on n'a plus ces oiseaux. Donc faut que ça perdure, hein. C'est grâce à eux malgré tout que ces oiseaux sont là. Et donc là on est vraiment dans un autre milieu. Petite zone boisée de résineux, et là l'oiseau typique qu'on peut s'attendre à avoir, ça va être le roitelet. Roitelet triple bandeau ou IP, donc ça c'est le plus petit passereau d'Europe en termes de poids. Ça fait ça peut faire moins de 5 grammes, donc c'est extrêmement petit. C'est très joli, voilà. C'est un petit insectivore assez véloce, alors on peut peut-être l'entendre. On va attendre que la voiture passe.
J'ai entendu, Henri.
Le but c'était de montrer toute la richesse naturelle qu'il y a autour de l'exploitation en termes d'oiseaux. Donc voilà, en fait, si tu changes de milieu, tu vas trouver des espèces différentes. Enfin, je disais les milieux ouverts, pardon, on va trouver l'alouette, autour des bâtiments on va trouver le moineau. Et là on est dans une zone boisée, on va trouver des oiseaux plutôt forestiers. Et donc c'était de montrer aux gens, en fait, voilà, en faisant. Voilà, on a fait 200 mètres, et puis alors j'ai pas cité tout ce qu'on a entendu, mais on a déjà une quinzaine d'espèces, si je reprends dans l'ordre, voilà, on est parti, on avait le pinson, on avait les moineaux, il y a le rouge-gorge, la senteur, et puis j'en ramenais qui sont passés, troglodyte, l'alouette des champs qui chantait, enfin voilà, ça va très vite en peu de temps.
Et là c'est vrai qu'on est dans une zone, on est vraiment à la limite d'une forêt de résineux, et déjà entre les deux premières rangées d'arbres on sent la différence de milieu, c'est-à-dire que ça va très vite, quoi.
Oui, et c'est vrai que alors t'as dit un mot qui est super important, c'est vraiment à la limite. Pinson du Nord qui passe là, on entend oui oui, voilà. Un pinson du Nord. Et ouais, c'est vraiment à la limite. Et ça, au niveau, niveau tout ce qui est écosystème, c'est vraiment à la frange en fait, où c'est là où, bah, bien évidemment, tu as un milieu typique, donc tu as toutes les espèces de ce milieu typique qui vont être, voilà, et inversement, tu as un milieu A, un milieu B. Et à la frontière, eh ben, tu auras les A et les B qui se mélangent, et peut-être une autre espèce, la C. Ce qui fait que tu as vraiment une diversité plus importante, vraiment à la limite sur les frontières.
Le fait d'avoir un circuit ornithologique permet d'une part de connaître la biodiversité, de connaître les façons culturelles qui sont faites par les agriculteurs, et donc de déresponsabiliser par rapport à ce qui se dit. Comme disait Didier tout à l'heure, il se dit un peu n'importe quoi, n'importe comment, on met toujours la faute sur les autres. Et donc là, maintenant, on essaye de faire comprendre aux citadins que forcément les agriculteurs ne sont pas forcément des pollueurs, et que aux agriculteurs, que les citadins sont capables de comprendre tous les problèmes qui se posent en agriculture. C'est créer un lien de discussion, de dialogue, et de faire comprendre, et qu'ils se comprennent un petit peu entre eux. Quoi. Ah oui.
On vient d'entendre Jean-Pierre Martinez, bénévole à la LPO, en charge du projet Les oiseaux de nos fermes et de nos vignobles. Premier objectif du dispositif, faciliter le dialogue entre agriculteurs et citadins en montrant les réservoirs de biodiversité que constituent les fermes, qu'elles soient en agriculture biologique ou non. Objectif secondaire, encourager les agriculteurs à aménager leur exploitation pour accroître les effectifs d'oiseaux avec des nichoirs, des haies ou des mares. Résultat, une meilleure attractivité du site pour le public, crucial lorsque la ferme est également un lieu de vente, mais aussi des avantages agronomiques en termes de lutte contre les insectes ou les mulots, par exemple. Frédéric Gabillot est éleveur à la ferme de Morillard à Lancôme. Il transforme ses porcs directement sur la ferme pour une distribution essentiellement en vente directe. Un moyen pour l'agriculteur de gagner en valeur ajoutée sur sa production. Frédéric et sa femme Valérie ont profité de la création d'un circuit d'observation sur leur ferme pour implanter une haie longue de plus de 200 mètres en travers d'un de leurs champs.
Parce qu'il y avait une volonté de réintroduire de la haie sur l'exploitation. Donc on a déjà fait un peu de haie. Et puis, vu qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent au magasin à la ferme le vendredi et le samedi matin, c'était de proposer une activité à la belle saison pour ceux qui voulaient faire le tour de la ferme et voilà, profiter de la vue, de tout ce qu'il y a à voir sur l'exploitation. Je sais que pour l'instant, il y a d'autres choses qui m'auraient plu de faire sur la ferme, et je n'ai pas encore pris le temps, mais les gens de la LPO aussi ont fait dans certaines fermes des abris pour les chouettes, les hiboux, tout ça, et c'est quelque chose qui me plairait de faire aussi sur la ferme, surtout que on laboure moins, on laboure peu maintenant, et de par le fait, on a un peu de dégâts de mulots. Et c'est vrai que ce sera intéressant aussi de faire un peu plus attention à la réintroduction de ces oiseaux-là, même si nous, on est en bordure de forêt, donc on en a pas mal, mais il faudrait faire des perchoirs un peu plus et tout ça pour pouvoir les aider à chasser dans de meilleures conditions, vu que c'est vrai que les parcelles sont de plus en plus grandes, et du coup les oiseaux ont plus de mal à se percher pour observer. Donc il y a encore du travail à faire dans ce domaine-là. Quoi.
D'accord, voilà. Ouais, c'était ma prochaine question. Installer des haies comme ça, favoriser la biodiversité, qu'est-ce que ça vous apporte dans le travail purement culturel? Qu'est-ce que ça vous apporte? En quoi ça gêne aussi?
En quoi ça gêne? Ça gêne pas, c'est juste qu'il faut du temps, il faut y consacrer un peu de temps, quoi. C'est un peu ce qui manque quand on fait de la vente directe. On est quand même pas mal pris entre la production et la vente. Donc nous, on a eu la chance d'être aidés parce qu'on a une association de chasseurs ici, une société de chasse qui s'implique beaucoup dans la réintroduction aussi des faisans. Ça a été fait il y a très longtemps, et maintenant il n'y a plus que du faisan sauvage ici, et maintenant ils essaient de le faire aussi avec la perdrix, de réintroduire, et c'est assez difficile, et eux ça leur plaît quand on propose de faire de la haie et tout ça, ils nous aident. Donc c'est eux et aussi l'école, le lycée, une classe du lycée agricole de Vendôme qui sont venus implanter les haies parce que sinon moi je ne trouverais pas le temps tout seul, quoi.
D'accord.
Déjà s'occuper de l'entretien. Après, la haie qu'on a faite, a fallu, c'était une année où il a fait sec, a fallu aller l'arroser. Donc il y a du temps à y consacrer, c'est sûr, pour l'implantation des haies. C'est surtout ça qu'il faut faire. Si on veut avoir plus d'oiseaux, voilà, faut réintroduire des haies. Et c'est pas toujours simple de trouver le temps de s'en occuper, quoi. Donc quand on peut être aidé comme ça, c'est bien. Il y a des personnes qui sont prêtes à aider maintenant dans plein de domaines. Donc,
En fait, on va modifier le milieu. Alors après, c'est une question de point de vue, hein. On le modifie, est-ce qu'on l'améliore, est-ce qu'on l'détériore?
Ça dépend de ce qu'on va en faire.
Exactement. Voilà. Après, ça dépend après de quelle espèce on parle. On peut dire que voilà, là, de toute façon, la plantation du nez, en tout point, c'est bénéfique pour l'oiseau. Donc là, on va améliorer le milieu parce qu'on va apporter de la diversité. Et en fait, plus le milieu est riche en diversité, plus c'est intéressant, il va être résilient et il va être à même de mieux réagir aux variations. Donc là, on ramène des oiseaux, on va ramener toute une cohorte d'insectes. C'est vraiment une bonne chose pour l'agriculteur et puis pour la faune environnante.
D'accord, donc là, on a parlé de résilience, de résistance aux variations. Enfin, de quelle variation on parle?
Eh bien, alors si je me mets après, c'est tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Si on a la place de l'agriculteur, donc là il y aura des cultures à côté. S'il y a une attaque d'insectes, de petits coloptères ou de pucerons ou autres, si on ramène les auxiliaires prédateurs, voilà, de ces ravageurs de cultures, eh bien voilà, là. Le milieu, on va dire, le champ, sera à même de résister plus facilement aux attaques des ravageurs, du fait de la haie et puis de tout ce que ça va apporter en termes d'abri, de nourriture pour ces auxiliaires. Globalement, c'est un milieu qui va se maintenir. On va pas trop y toucher. Donc c'est un abri, c'est un peu c'est un peu le refuge.
Voilà. D'accord. Et donc là on entendait notamment Frédéric qui nous parlait des déséquilibres qu'on créait avec le non-labour, avec la présence de campagnols. Ouais. On entend souvent aussi l'impact des bénéfiques des couverts végétaux, mais l'impact négatif que ça peut avoir en termes de limaces et tout. Donc finalement, quand on change le milieu par des pratiques qui sont dans l'idée positive pour l'environnement, mais qui peuvent avoir ces problèmes-là de créer des déséquilibres, en changeant le milieu, en arrêtant de labourer, en mettant des couverts, on crée des déséquilibres, et finalement qui vont mettre du temps à se résorber, quoi. C'est-à-dire au début on a le problème de campagnols, mais à terme, s'il y a beaucoup de campagnols, il y a forcément des ramapaces qui vont se pointer, surtout si on fait en sorte que...
Si tout va bien, oui, c'est ça.
Il y a un décalage finalement entre la prolifération du ravageur et le... qu'on neutralisait par des pratiques destructrices pour l'environnement, qu'on abandonne, donc le ravageur revient, et le prédateur, il revient qu'au fur et à mesure, quoi. Parce que finalement, en détruisant le ravageur, on a indirectement chassé le prédateur.
C'est exactement ça. Et du coup, on reste sur l'insecte, en fait, la haie permettra au prédateur des ravageurs de revenir plus rapidement et de recoloniser son milieu plus facilement. Voilà. Mais encore faut-il avoir le prédateur sur place, quoi. C'est tout le problème. Et après, c'est un compromis, hein. C'est vrai que si on lui repeint toute sa ressource alimentaire est supprimée, bien évidemment il va aller ailleurs. Et en fait, ce qu'il faut, c'est toujours avoir un petit peu de ressources alimentaires pour que le prédateur se maintienne. Et le jour où il n'y a plus l'ulation, et ben là il est utile.
La vision de la haie, c'est bien, parce que moi c'est sur long terme qu'on projette. Ouais. Parce que là, voilà, en général, c'est du court terme et on n'a pas de vision. Là, la haie, c'est super. Hein. C'est super.
Moi, je trouve que dans ce groupe, on a des gens comme Frédéric et d'autres, hein, qui sont un peu. Pas des visionnaires, mais qui essayent d'aller vers...
Ils
prennent des risques, hein, quand même, hein, sur des pratiques nouvelles.
C'est pas dans l'air du temps, c'est sûr, de...
C'est pas trop
dans l'air du temps, en général, de planter des et tout ça. Enfin, on a l'impression qu'il y en a qui disent, on revient en arrière.
Non, pas du tout. rétablit la
véritable. C'est sûr, je perds un peu de superficie à court terme.
Tu gagnes.
Enfin, quand on voit la rentabilité de aujourd'hui de la culture, de la grande culture, c'est pas tant ce qu'on perd. Il faut se poser des questions, je pense, à plus long terme sur ce qui peut être gagné de par l'enracinement de ces plantes qui vont aller travailler dans le sol, surtout quand on veut éviter de labourer au maximum.
Et puis c'est pour faire prendre conscience également que l'oiseau est un auxiliaire du jardinier, du paysan, de tous et tout à chacun. Parce que, imaginez que la maison charbonnière est un acteur essentiel dans la lutte contre les chenilles processionnaires. Donc, notamment, mais pas seulement. Et tous les pucerons qui sont en train de, là, avec les beaux jours, qui sont en train d'envahir les arbres fruitiers, le vignoble, et tout, il faut voir les rosiers, les fleurs, les arbres. Les oiseaux sont des destructeurs efficaces de toute cette petite faune-là. Hein. Et sans eux, on se gratterait du matin au soir comme des bêtes. Hein. Il y aurait plein de bestioles qui nous ennuieraient beaucoup. Et donc l'oiseau a un rôle aussi très très important qu'on sous-estime beaucoup. On voit un piaf qui vole dans la... On se pose même pas la question qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Hein. Alors qu'il a un rôle énorme, essentiel pour l'être humain. Voilà, moi je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire comprendre aux citadins. Et d'ailleurs, les agriculteurs ne sont pas toujours conscients non plus. Hein. Moi j'ai été étonné il y a 5 ans, quand j'ai commencé sur ce projet, de parler avec des agriculteurs, des vignerons, c'était à l'époque. Eh bien, ils ne connaissent pas beaucoup leurs oiseaux. Très peu. La pie, le corbeau, quelques faciers, choses comme ça, mais tous des petits passereaux là, qui sont la linotte mélodieuse, la louette des champs, tout ça, qui sont très efficaces dans les vignes, dans les arbres fruitiers, eh bien ma foi, on les voit pas, ils prennent pas le temps d'observer. Et ça aussi, c'est important pour eux que le paysan observe ses petits compagnons là, qui lui donnent un sacré coup de main pour gérer sa production. C'est très très important. Il y a une prise de conscience là aussi.
C'est la fin de cette 22e feuille vive sur la LPO et ses parcours ornithologiques, les oiseaux de nos fermes et de nos vignobles. Dans une région remplie de hauts lieux touristiques, des châteaux de la Loire aux eaux de Beauval, l'objectif de ce dispositif est d'attirer l'attention des touristes, mais aussi des habitants locaux, sur des paysages, des productions agricoles et des espèces animales du quotidien. Valoriser une activité économique souvent décriée pour son impact sur l'environnement, sans comprendre son rôle dans l'aménagement du territoire et le maintien de la biodiversité. Nombre d'agriculteurs engagés dans une démarche de certification bio, de distribution en circuit court ou plus largement d'agriculture paysanne cherchent à modifier leurs pratiques et à amender leurs fermes selon les principes de l'agroécologie. Des aménagements demandeurs d'investissement en temps et en argent pour une profession souvent très mal rémunérée et parmi les plus exigeantes en temps de travail. En encourageant ces nouvelles pratiques sur les exploitations, en attirant notre regard sur ces améliorations écologiques et paysagères, la LPO cherche à revaloriser le travail agricole et ainsi à faciliter le dialogue entre citadins et ruraux. Retrouvez ce reportage en podcast avec toutes les infos pratiques sur les parcours ornithologiques de la LPO dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Pigeon des villes, Alouette des champs, à bientôt.
Un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Viens donc, Mehdi, viens en voir, je croyais en main que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais tout ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait... Wow.